Salut, Carl.
Salut, Michel.
Il y a des images parfois, hein? J'en parlais il y a quelques secondes, là. Ce tour cycliste de Pologne, si vous êtes amateur de vélo, Tour de Pologne, bon, moins grand que le Tour de France, mais quand même, c'est une compétition internationale. Et puis, méchante débarque au fil d'arrivée, c'est dangereux le vélo aussi, hein?
C'est dangereux. Il faut prendre ses précautions. Et c'est un sport qui, évidemment, ils vont très vite. Ils sont très près l'un de l'autre.
Oui, c'est fou. C'est complètement débile.
C'est pas, ouais.
Bon, alors parlons des... est-ce qu'on dit les festivals ou les festivaux? Non, je t'agace. Parlons des festivals. On peut reprendre les festivals, mais il y a des consignes à respecter, là.
Ben oui, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui a annoncé ça cet après-midi, était de passage à Rivière-du-Loup. On va pouvoir réouvrir les festivals, les événements extérieurs, mais on devra respecter la norme du maximum de 250 personnes.
C'est payant, le festival des Montgolfières à 250 spectateurs.
Ben c'est ça. On s'entend que pour ceux, là, les festivals, les événements de grande envergure, tout d'abord, la plupart d'entre eux sont déjà annulés depuis longtemps. On n'est pas en mesure de réduire l'échelle à maintenir 250 personnes maximum sur le site. C'est impossible. Mais, pour les fêtes de quartier, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Dans les petits villages, des choses comme ça, des événements qui n'auraient pas eu lieu sans cette permission du gouvernement, mais là, on va pouvoir commencer à faire des choses un peu plus sociales, un peu plus communautaires. Parce qu'évidemment, tu parles du festival de Montgolfière, là, mais il y en a d'autres festivals. Mais essayer d'empêcher, de contrôler 250 personnes sur un site lorsqu'on a de l'envergure, c'est impossible. Je veux dire, tu prends le festival bière de Gatineau, par exemple, là, je veux dire, impossible de contrôler, il y aurait des files d'attente, ça serait vraiment incroyable si ces festivals-là tentaient de réouvrir avec ces limites-là. Mais, petite fête de quartier, hein...
Je me souviens, quand j'étais jeune, moi, à Carl, à Touraine, il y avait une fête de quartier une fois par été. Dans les rues, puis les gens de Touraine se rassemblaient, puis peut-être ça se faisait dans le Mont-Bleu, puis ailleurs en Outaouais. C'était comme ça dans les années 70.
Ça dépend toujours de l'association de citoyens, l'implication des gens. Est-ce qu'il y a un endroit pour le tenir? Quel parc local peut le faire? Mais il y en a quelques-uns. Et je pense qu'à cause du manque d'événements d'envergure, ben peut-être qu'il y aura des initiatives locales pour dire pourquoi on se fait pas dans le quartier, hein, un petit festival de bière ou un petit festival de dégustation de produits locaux, etc. T'invites 5 ou 6 exposants, tu tiens ça limité, tu vends des billets exclusifs et voilà, tu peux maintenir un certain contrôle. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ceci dit.
Et en même temps, en même temps, un peu trop tard, là, je veux dire, début août, t'as pas le temps d'organiser un festival. Et mais des festivals extérieurs, bon, tu peux en faire l'hiver, mais il y en a pas autant que l'été, disons.
Il y en a pas autant que l'été. Il y en a quand même à l'automne. Je veux dire, j'imagine qu'on peut peut-être faire des fêtes d'Halloween, hein, des choses comme ça qui s'en viennent. Faut y penser. Ça arrive à grands pas. Mais il y a les événements sportifs, par exemple, qui vont respirer. Les tournois extérieurs, hein, soccer, balle molle. Ben là, tu peux permettre aux parents de venir, aux équipes de venir à 250 personnes. Là, tu peux en même temps sur le site, tu peux organiser un tournoi qui est raisonnable, tu peux faire tes frais. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. En même temps, ce que j'allais dire, Michel, c'est que quand tu donnes de la corde, il y en a toujours qui vont vouloir se pendre avec.
T'as vu ça, toi?
Ben oui, j'ai vu ça. C'est ce qu'on voit depuis le début.
Ah oui,
et là, ben, ça sera... écoute, ce qu'on voit, ce qu'on entendait de la ministre Caroline Proulx aujourd'hui, hein, c'est le fardeau de maintenir ses limites, ses responsabilités vont être sur les organisateurs de tous les événements.
Et ça,
ça,
moi,
sera pas évident tout le temps là.
Ouais, puis je sais pas, Carl, comment on va gérer ça à moyen long terme. Mais pour que les uluberlus comprennent, à un moment donné, il faudrait peut-être que ce soit l'uluberlu qui soit sanctionné, non pas le commerçant ou l'organisateur là.
Ben t'as tout à fait raison.
Ça ouvre la porte
si
à ces innocents là.
Ben oui. Il y a de l'abus, et on profite de la faiblesse, hein, que ce soit du commerçant ou des organisateurs, lorsqu'on parle de fêtes, là, de quartiers ou de festivals, quoi que ce soit, souvent c'est des bénévoles, sont pas outillés, sont pas équipés pour faire face à une gang d'hurluberlus, comme tu dis, qui arrive et qui décide que eux, ils portent pas le masque, que eux, le 2 mètres, ben c'est 2 pouces.
Ben oui, parce qu'ils ont étudié toute leur vie en médecine, ils savent de quoi ils parlent, ces gens-là, habituellement.
Ben oui, ils connaissent ça, ils connaissent ça, puis ils l'ont l'affaire.
Plus que nous autres.
Alors, et le fardeau, mais c'est ça, pour l'instant, là, c'est les organisateurs qui devront aménager les sites, des zones d'attente si y a un surplus, s'assurer qu'on respecte le 2 mètres. Alors, bon, pour plusieurs, ça va les décourager, mais on peut peut-être espérer que certains petits événements vont pouvoir respirer un peu et pouvoir profiter du reste de l'été avec ces assouplissements.
J'ose même pas aller lire les commentaires là-dessus. Il y a des groupes autochtones qui réclament des milliards de dollars dans le dossier là, hydroélectricité, l'exportation.
Ben, on pensait
en fait
que c'était réglé. On pensait que c'était réglé, ça, hein, les histoires de compensation pour les peuples autochtones par rapport au développement d'Hydro-Québec, au réseau, les barrages, les réservoirs, les lignes de transport. Rappelle-toi, il y avait eu cette fameuse paix des braves à l'époque, Bernard Landry qui avait négocié ça avec les Cris. En 2002, là, on avait une enveloppe de 4,5 milliards de dollars sur 50 ans. Le problème, c'est que il n'y a pas juste les Cris dont les territoires ont été touchés par le développement d'Hydro-Québec. Ben aujourd'hui, c'est les Inuits et les Atikameks qui réclament des milliards au gouvernement du Québec, disent que le Québec comptait maintenant deux classes d'Autochtones, ceux qui ont réussi à s'entendre avec Québec, puis les autres qui sont ignorés. Et là, ben on menace de faire des campagnes publicitaires contre le Québec, contre le gouvernement, contre Hydro, puis peut-être qu'on va en faire aux États-Unis. C'est ce que les chefs autochtones ont mentionné aujourd'hui. Ont même parlé, imagine, tu ne seras pas surpris, hein, peut-être, ont refusé d'exclure à tout le moins les blocus ferroviaires. Comme on a vu. C'est une recette qui a fonctionné.
Fonctionne bien, d'ailleurs. Bon, le Musée canadien pour les droits de la personne, coupable de racisme et d'homophobie.
C'est assez étonnant.
Ben, c'est comme un pléonasme, non?
Ben oui, l'arroseur arrosé, appelle ça comme tu veux, c'est un rapport accablant pour le Musée canadien pour les droits de la personne qui conclut un racisme omniprésent, un racisme systémique. C'est une enquête qui avait été mise en place, ça, à la suite d'allégations qui étaient sorties au mois de juin, des employés qui disaient, ben voilà, nous, si on est dans un groupe racisé, si on est autochtone, si on fait partie d'une minorité, ben on n'est pas respecté, on n'est pas utilisé, on n'obtient pas les promotions. Et on doit faire face à une vision très blanche, très ethnocentriste du développement du Canada. Écoute, il y a une anecdote qui avait été racontée où un blanc faisait faire une tournée à un groupe d'écoliers autochtones les écoles, la colonisation, tout ça, les pensionnats. Et la personne blanche en question regarde les jeunes autochtones dans les yeux et leur demande: imaginez si cela arrivait à votre peuple.
Ah ben oui.
Parce qu'il suit le script, lui, tu sais, tu comprends? Oh oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du racisme systémique. Tu t'en rends même pas compte. Ben là, il y a eu une grande étude. Ça cause tout un scandale. Parce qu'effectivement, si on pouvait s'attendre à un endroit où le respect des droits de la personne serait au maximum, ça serait bien au Musée canadien pour les droits de la personne.
Et ça va avec. C'est censé être inclus dans le prix, comme dirait l'autre.
Eh oui. Alors, écoute, ces allégations ont déjà mené au départ du PDG du musée, là, John Young. Il y a eu cet examen externe. C'est un rapport qui sera étudié. 44 recommandations qui sont faites au gouvernement fédéral pour mettre fin aux pratiques qui sont discriminatoires envers différents groupes, notamment les Autochtones et les groupes racialisés.
Monsieur Bélanger, toujours un plaisir.
À demain, Michel.
Passe une belle soirée, Carl.